Le Mac de l'après-midi, Sud Radio.
Marc Leval.
Les psys sont-ils les héros des temps modernes? La question que l'on se pose, vous arrive-t-il régulièrement d'aller consulter? Est-ce que c'est un besoin absolu chez vous? Et qu'est-ce qui a déclenché cette envie, ce besoin, ce ressenti à un moment donné de votre vie? Témoignez, vous pouvez appeler le standard 0826-300-300. Caroline vous attend et fera suivre, comme l'ont dit mes invités, donc le docteur Dan Velea qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, addictologue. Audrey Hakoun, également psychothérapeute. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Merci d'être là. Nicolas Bichot, psychologue à Toulouse. Et vous occupez des jeunes, je l'ai dit, hypnothérapeute également. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous seriez tous les trois des héros des temps modernes? J'attendais les sourires derrière et éventuellement la réaction. Tiens, honneur aux dames. Audrey Hakoun, vous êtes une héroïne des temps modernes?
Quartier, ma famille, non, je blague. Non, surtout pas. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'impression d'être une héroïne des temps modernes. Je pense que les héros des temps modernes, ce sont les gens qui nous font suffisamment confiance pour qu'on puisse les accompagner à trouver eux-mêmes leurs ressources. Et en faisant la démarche, une démarche psychothérapeutique, ce sont déjà des héros de leur vie puisqu'ils ont choisi une autre voie et choisi d'essayer des choses pour aller mieux.
Dan Velea, je notais ce sondage tout à l'heure, vous l'avez entendu peut-être dans l'introduction, consulter un psy aujourd'hui, donc ce n'est plus tabou, et un Français sur quatre, 28% des Français reconnaissent avoir déjà consulté un psychiatre, un psychologue ou un psychothérapeute. Alors vous n'allez pas me dire le contraire, mais évidemment, est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que c'est devenu du coup bien une démarche extrêmement simple et aujourd'hui efficace?
On peut voir ce sondage évidemment sous les deux angles. C'est inquiétant, il y a un quart des Français qui ont besoin quand même de consulter. On va voir exactement qu'est-ce que cela reflète en termes sociaux, en termes d'évolution sociétale, le stress au quotidien, les problématiques, peut-être les difficultés d'apprendre soi-même et de corriger soi-même certaines situations. Mais dans le même temps, heureusement que les gens ont compris qu'ils peuvent se faire aider, ne pas traîner dans les problématiques et accumuler les soucis sans arrêt. Il faut se trouver par la suite dans des phases complètes déprime, de burn-out et sans son pouvoir réagir. Donc, c'est sur les deux plans qu'il faut voir ce sondage.
Nicolas Bichot, alors, héros des temps modernes, votre réaction sur cette façon d'appréhender, en tout cas de mettre une petite étiquette sur l'image du psy en France?
Et moi, je partage en fait complètement la vision de ma collègue en insistant sur le fait que sont davantage les patients qui, à mon sens, sont les héros de la thérapie et les héros de leur propre vie, où ils viennent effectivement développer des ressources et se comporter de manière extraordinaire pendant ce moment pour pouvoir finalement dépasser des difficultés qui vont aussi en dehors de l'ordinaire. Par rapport à l'importance du rôle de psy, j'ai l'impression que finalement ça a toujours été une fonction sociale qui a existé peut-être autrefois au travers des chamans, des rebouteux, ou parfois même le rôle du médecin plus récemment a eu cette fonction un petit peu de psychothérapie. Je sais pas si franchement le psychologue est plus à la mode qu'avant. Je me permets de douter dessus. Je pense que ça a toujours été une nécessité finalement de réfléchir sur les difficultés et de pouvoir mettre du lien. Alors, c'est pour ça qu'en même temps, quand vous étiez en train de poser cette question, le psy est-il le héros des temps modernes? C'est vrai que le héros, je l'entendais plutôt dans le sens du héros grec qui a un statut à la fois entre le dieu et l'homme. Et pour moi, effectivement, il y a en thérapie une relation au religieux dans le sens qui relie les choses en elles. On est en thérapie à la fois pour faire des liens entre sa manière d'être individuellement et la manière aussi de se comporter dans le champ social.
En tous les cas, ce qu'on peut dire dans cette approche et le fait d'aller consulter un psy, Audrey Hakoun, c'est qu'encore une fois, ça n'est pas une démarche, on n'y va pas comme on veut soigner un petit bobo du quotidien ou on irait chez notre médecin généraliste, hein, Audrey Hakoun.
Exactement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut pas, moi je refuse à penser que c'est un effet de mode, il n'y a pas d'effet de mode et je rejoins Nicolas dans ce propos-là. Je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, on bénéficie, on a cette chance-là, notre génération a cette chance qu'on a désacralisé la consultation chez le psy. Il y a eu beaucoup aussi de séries, de livres qui ont donné donner une autre image de la consultation de psy où avant on montrait les psys comme quelqu'un d'un petit peu tout puissant qui a le savoir, qui manipule le patient et qui a le pouvoir. Ça faisait un peu peur, comme vous l'aviez dit en, comme vous l'avez dit en intro. Avant, c'était on allait chez le psy si on avait un vrai gros problème et qu'on est fou. C'est les fous qui allaient chez les psys. Ce qui fait que pour les gens de ma génération, quand on était petit, bah moi, c'est ce que je dis souvent aujourd'hui à mes patients. Moi, j'aurais bien aimé quand j'étais petite. Je pense que j'aurais eu besoin, même à l'adolescence, d'aller voir un psy parce que j'avais un vrai mal-être. Et qu'à l'époque, bah, ça ne se faisait pas parce que voilà, c'était les fous. Aujourd'hui, on a cette chance-là. C'est qu'on peut aller voir un psy. Alors, c'est vrai que les motifs de consultation, finalement, c'est très rare. Il n'y a pas d'effet de mode parce qu'on ne vient pas nous consulter pour des petits bobos. Et je dirais qu'à la limite, il n'y a pas des petits bobos. Tout est relatif. Ce qui peut nous paraître une petite chose, un petit détail, si pour la personne, ça lui pose un vrai problème, c'est handicapant dans ses relations sociales, dans son rapport à elle-même, ça n'est plus un petit bobo et ça doit être pris en compte autant qu'une grosse dépression. Parce qu'un petit bobo qui est nié peut devenir un gros bobo si on n'y prête pas attention et si on n'offre pas cet espace-là en lieu et en temps pour venir le travailler, pour venir soigner ses blessures.
Alors il y a le phénomène également sociétal, docteur Dan Velea, il y a un confrère à vous qui s'appelle Christophe André, qui est psychiatre également, qui dit ceci: les gens n'ont plus peur d'aller voir un psy parce qu'ils viennent y chercher des compétences pour comprendre une société plus complexe, plus fluide et plus mobile qu'autrefois. C'est toujours ce phénomène de performance, toujours ce phénomène de production, toujours ce phénomène de consommation qui fait qu'à un moment donné, les gens se sentent mal au point de devoir aller consulter ?
Écoutez, cette évolution sociétale, c'est quelque chose qui était signalé depuis une bonne cinquantaine d'années. Il ne faut pas oublier les écrits américains d'Alvin Toffler, de Marshall McLuhan, avec les évolutions des sociétés, avec la destruction des valeurs classiques dans la société et la recherche de quelque chose d'un sens, donner un sens un petit peu à son existence au milieu de ce qu'on appelle la société. Oui. Et c'est tout à fait... On est dans une société à l'heure actuelle, on le voit à notre niveau, les adultes, mais aussi chez les jeunes, submergés par le culte de la performance, doublé par une anxiété de performance, tout le temps être le meilleur, tout le temps être plus compétent et avoir beaucoup plus des acquis et beaucoup plus de choses. Donc c'est vraiment le paraître qui prend le pas concernant l'être. Et certains gens arrivent à un moment donné où ils se posent la question vraiment existentielle: qui je suis, quel est mon rapport à ce monde, quel sens je donne et comment je m'oriente un petit peu, en sachant qu'ils subissent régulièrement des pressions, que ce soit de la part de la société, que ce soit de la part du travail, de la famille et de tout leur entourage. En sachant que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est passé d'une évolution très importante, le psy qui soignait la maladie, maintenant ce sont les psys qui aident les gens à vaincre et à vivre avec un mal-être, savoir dépasser ces moments de difficulté. Donc là, il y a une nécessité justement, les gens ils arrivent, ils sont en consultation, ils posent énormément de questions, donc ils deviennent déjà partie active, ils sont aussi participatifs dans ce qu'ils font, et c'est ça qui donne maintenant un nouvel essor à tout ce qui est thérapie et tout ce qui est parti en charge psy.
Alors, on verra tout à l'heure qui choisir, parce que ça aussi, il y a énormément de difficultés à prendre une décision quand il s'agit d'aller consulter. Est-ce qu'on va voir un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste ? Ça, ce sont des vraies questions qu'on peut se poser. D'abord, quelle est la différence entre les trois ? Est-ce que ça correspond bien à mon mal-être et à ce que j'ai envie d'entendre ? En tout cas, au besoin que j'ai de progresser psychologiquement dans mon évolution. Mais avant cela, Audrey Acoun, puisque vous êtes psychothérapeute, c'est vous qui avez évoqué les médias et notamment la radio, la télévision, et le fait que beaucoup de psys interviennent dans des émissions, d'ailleurs vous le faites vous, et puis d'autres également sur les plateaux télé, et les séries télé aussi ont désacralisé un petit peu le côté psy, puisqu'on en a fait même des séries cultes aujourd'hui, et il y a beaucoup de vos confrères qui dénoncent certaines de ces pratiques avec des discours un peu trop vulgarisés. La vulgarisation du discours psy dans les médias dérange un peu parfois. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey Acoun ?
Moi, ça ne me dérange pas du tout à partir du moment où on ne dit pas d'ânerie. Voilà. On peut très bien vulgariser les choses en restant quand même au plus près de l'essence et sans dénaturer une pratique, sans laisser croire ou espérer l'effet baguette magique. Alors, c'est souvent de ça dont il s'agit, c'est que parfois, c'est vrai qu'il y a des patients qui arrivent en consultation et qui, parce qu'ils ont vu cette magnifique série In Treatment, là, en thérapie, ouais. Je connais le titre en anglais, ou ont vu des films où finalement, en deux coups de baguette magique, bloqué deux séances, ouais. La personne a résolu tous ses problèmes et c'est extraordinaire. Et voilà, c'est sûr que ces gens-là peuvent être déçus quand ils arrivent en thérapie et qu'on leur explique que non, on n'a pas la baguette magique.
Mais vous
et
avez
en
des
deux,
patients.
Trois séances, ça risque de pas être réglé. Mais hormis ça, à partir du moment où on explique les choses et où on recadre, moi je trouve ça très bien qu'on puisse médiatiser ces pratiques-là. De la même manière, ça passe par les livres. Je trouve qu'on a un accès à la connaissance aujourd'hui que nos aînés n'avaient pas forcément. Et je trouve ça très bien. Plus il y aura d'accès à l'information et plus il y aura d'accès aux pratiques, aux cabinets, aux consultations, quelles qu'elles soient, quel que soit l'endroit, quelle que soit la forme, à partir du moment où on est dans des choses sérieuses, avec des gens qui font leur métier de manière sérieuse, je trouve ça très bien.
Bon, sur la même question, Nicolas Bichot, vous êtes psychologue, est-ce que la surmédiatisation, parfois en tout cas la médiatisation dans un premier temps, est-ce que c'est une bonne chose ou pas ?
En fait, c'est quoi la surmédiatisation ? C'est simplement qu'on entend parler des psychologues. Pourquoi ce serait une mauvaise chose ?
Non, on entend parler des psychologues, mais enfin, aujourd'hui, on en fait, je le disais, des séries télé. Et d'ailleurs, Audrey Acoun disait qu'il y a même des patients qui se réfèrent à ces séries télé, qui disent, bah oui, mais à la télé, moi j'ai vu qu'on pouvait faire ça, est-ce que vous pouvez faire la même chose sur moi ? Et c'est peut-être ça le danger, le revers de la médaille à un moment donné, non ? Je sais pas.
C'est-à-dire que, comme disait ma confrère Audrey, c'est vrai qu'en thérapie, parfois les gens ont des attentes, peut-être pas façonnées par des séries, peut-être façonnées par un discours ou simplement des attentes pour mettre fin à leur souffrance qui sont parfois irréalistes. Ils attendent effectivement le coup de baguette magique. Et c'est vrai qu'il est important dès les premières séances de bien clarifier notre rôle en insistant sur le fait qu'en thérapie, on fait un peu une thérapie de paysan, une thérapie un peu où on avance pas après pas, avec beaucoup de patience, avec des objectifs qui sont très minimaux et facilement atteignables.
Le Mac de l'après-midi Sud Radio.
Les psys sont-ils les héros des temps modernes avec mes invités, Dan Velea, psychiatre, avec Audrey Acoun, psychothérapeute, et puis Nicolas Bichot. On va voir dans quelques instants la manière dont on doit choisir son praticien. Parce que ça aussi, quand on a évidemment ce petit ressenti où on se sent pas très très bien, où on a vraiment des interrogations, une espèce de mal-être ambiant qui est toujours omniprésent en soi, il faut prendre les devants, et quand on a déjà fait la démarche de se dire il faut véritablement que je fasse un pas en avant avec en allant consulter, reste à savoir qui choisit-on, un psychologue, un psychiatre ou un psychanalyste. Alors c'est vrai que la prise en charge de la maladie mentale est en général dévolue au psychiatre, mais il existe toute une gamme de thérapies à visée psychologique avec une approche et des objectifs variés. Autrement dit, on pourrait dire que certaines personnes pourraient à tout moment s'improviser psychothérapeute. Alors ça va faire bondir Audrey Acoun dans deux secondes, hein, ça j'imagine bien. Mais il paraîtrait que n'importe qui peut du jour au lendemain s'improviser psychothérapeute. Est-ce vrai ?
Oui.
Ah.
Donc s'improviser, il n'y a pas dans la psychothérapie, il n'y a pas de cadre juridique. Alors il y a eu des tentatives, il y a un mini cadre qui régit l'installation d'un psychothérapeute, contrairement aux psychiatres qui sont des médecins et aux psychologues où c'est un diplôme universitaire. D'où l'intérêt de bien se renseigner et de demander. Faut pas hésiter à demander quelle est la formation du psychothérapeute. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de cadre qu'il n'y a pas de gens compétents et qui ont fait des vraies formations, mais il faut vraiment pas hésiter, il n'y a pas de honte à demander, voilà, quelle école vous avez faite. Après, ça se passe aussi par recommandation. Je dirais que voilà, il y a des gens, s'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous conseille d'aller voir une personne et qui vous dit que voilà, elle est très bien, très bienveillante.
Bon, ceci dit, ce qui est valable pour l'un
n'est déjà un gage.
Oui, mais ce qui est valable pour l'un n'est pas pour l'autre.
Renseigner.
Oui, ce qui est valable pour l'un n'est peut-être pas efficace pour l'autre.
Et ça aussi, c'est-à-dire qu'après, dans le choix, il y a vraiment, c'est la question de feeling qui est que ça peut marcher avec quelqu'un et le courant va moins passer avec une autre personne. Mais je dirais que pour les psychiatres et les psychologues, c'est pas parce qu'on a un titre non plus que ça fait de nous un bon praticien. Donc c'est vraiment une question de personne, une question de feeling, et de pas hésiter à se renseigner et de voir, voilà, si on se sent en confiance ou pas. Et vraiment la question de la confiance est très importante.
Docteur Dan Velea, est-ce que sur cette question du choix entre un psychiatre, un psychothérapeute et un psychologue se pose, est-ce qu'il y a une réglementation ou pas, comme le disait Audrey Hakoun, d'être inscrit, notamment on parle du registre départemental, même pour les psychothérapeutes, apparemment c'est pas le cas.
Moi, j'avais en tête que la loi Accoyer, donc qui a été votée quand même il y a quelques années,
en 2010.
Imposait déjà donc une obligation à coller un titre de psychothérapeute suite à une reconnaissance par des commissions départementales, universitaires, formées des psychothérapeutes, formées des médecins, qui accordaient la possibilité de mettre sur sa plaque le terme psychothérapeute. Mais non, je ne sais pas pourquoi il y a un flou. Ce que je sais, moi, au niveau de en tant que médecin, nous déjà, en tant que médecin, on peut mettre à coller donc le mot docteur devant, docteur en médecine, plus la spécialité qui est celle de la psychiatrie, après le titre de psychothérapeute, à condition, évidemment, d'avoir fait soi-même une thérapie, d'avoir suivi une voie universitaire pour devenir psychothérapeute. Donc, après le choix entre médecin et le psychologue, donc médecin psychiatre ou psychologue, il est fait par beaucoup de patients parce que certains restent aussi avec une image assez classique, malheureusement, sur le médecin qui serait un peu trop prescripteur de médicaments ou voire même l'image qui est celle de la folie qui est collée derrière. Et le psychologue, ça serait beaucoup plus soft. Moi, je ne vois pas de différence. Après, je suis aussi d'accord avec ma confrère dans le sens où ce sont les patients qui vont raconter dans leur entourage. Quand on leur pose la question, j'ai vu qu'il est bien, il m'a aidé, il a été capable de me sortir de cette situation-là. Donc c'est ce bouche à oreille. Puis évidemment, il y a des tas de sites professionnels où on se fait connaître, on met un peu ses compétences, et puis en fonction de ça, les patients vont choisir.
En 30 secondes, Nicolas Bichot, sur la différence entre le choix sur un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute.
Ok. C'est une question qui est assez intéressante. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit en disant généralement cet a priori est très fort que le psychiatre est là pour traiter la maladie mentale, alors que le psychologue ou le psychothérapeute serait là pour traiter finalement la névrose ordinaire.
En règle générale, la maladie mentale est plutôt oui, sur l'aspect médical des choses, et le seul qui est censé être médecin, c'est quand même le psychiatre.
Oui, ça c'est exact. Par rapport à la réglementation de la psychothérapie, je suis plutôt d'accord avec mon collègue médecin. Et alors pour moi, par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui me vient aborder un peu le sujet du succès en psychothérapie. Pour moi, le succès en psychothérapie dépend pas tellement du titre, en fait, psychothérapeute, psychiatre ou psychologue. Beaucoup de recherches ont montré que les principaux facteurs du succès dépendaient de la relation thérapeutique
entre le patient
et le professionnel, et aussi des ressources familiales et des ressources personnelles du patient. Ça, c'est hyper important. C'est pour ça que même la théorie intrinsèque qui guide la pratique du professionnel, à mon sens, n'a pas tellement d'importance. Le professionnel devrait être capable de pouvoir s'adapter à la théorie et aux attentes de chacun des patients.
Le Mac de l'après-midi.
Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio.
Voilà, place à l'actualité, bien sûr, et d'autres infos tout à l'heure à partir de 16h. La question que nous posons depuis quelques minutes maintenant, et on revient sur cette thématique des psys en règle générale, est-ce que ce sont les héros des temps modernes? De quelle manière peut-on choisir notre psy si on en ressent véritablement le besoin, et faire son choix surtout entre trois, entre guillemets, disciplines, avec les psychologues, avec les psychiatres et avec les psychanalystes? Et mes invités, Dan Velea, docteur psychiatre, qui est avec nous, avec Audrey Hakoun également, qui est psychothérapeute, et Nicolas Bichot, qui est psychologue à Toulouse et qui est également hypnothérapeute, que je remercie tous les trois d'être avec nous. Et pardon pour ces interruptions, mais l'actualité évidemment prime et l'impose. Alors, on va revenir sur ce que vous disiez, Nicolas Bichot, on était coupé justement par le flash, et sur le choix. Et quand une personne se trouve dans une situation de désarroi, ou en tout cas a ce besoin d'aller consulter, parler, d'extérioriser un petit peu ce mal-être et puis voir de se soigner, est-ce qu'elle a la capacité de pouvoir choisir, au-delà du fait qu'on puisse lui conseiller un tel ou un tel, est-ce qu'elle peut choisir entre un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute, et de quelle manière?
Ah, de quelle manière? Souvent...
Merci d'avoir posé la question.
Bon, comme je vous disais, ce qui est important, c'est aussi des facteurs relationnels. C'est l'importance de se sentir écouté, de sentir qu'on avance, que le professionnel répond à ses attentes. Ce qui guide souvent le choix des patients, néanmoins, il y a aussi l'aspect économique. C'est vrai que les psychothérapeutes et les psychologues, nous ne sommes pas remboursés par la sécurité sociale. Ça, c'est un choix qui guide les patients. Cependant, nous proposons donc des consultations qui représentent un coût économique plus important, mais par contre, c'est des consultations qui sont souvent plus longues. C'est souvent des consultations d'une heure, même si des collègues psychiatres pratiquent aussi des dépassements d'honoraires, ce qui existe aussi. J'ai l'impression simplement, comme disait ma collègue
psychothérapeute,
ce qui est important aussi, c'est de la part de la personne qui vient de demander de l'aide à un professionnel, elle a tout à fait cette responsabilité critique de se renseigner sur les compétences, la formation du professionnel qui est en face d'elle, et savoir aussi si le professionnel est effectivement dans la capacité de l'aider, dans la capacité de répondre à ses attentes. C'est important en tant que professionnel, nous, de notre côté, d'être très transparent sur notre méthode de travail et sur la manière dont nous allons procéder dans l'intervention thérapeutique. Ouais.
Est-ce que vous avez, docteur Dan Velea, le sentiment que le fait d'être psychiatre, médecin psychiatre, la démarche est plus difficile d'aller vers vous que d'aller vers un psychothérapeute ou éventuellement un psychologue, parce que il y a peut-être un degré, c'est-à-dire que le fait d'aller directement chez un psychiatre, c'est peut-être un aveu de faiblesse quelque part, plus que chez un psychologue ou une psychothérapeute, à votre avis?
Écoutez, beaucoup moins que par le passé. Je pense que les gens commencent un petit peu à comprendre que le fait de voir un psychiatre, c'est pas forcément une connotation de maladie psychiatrique très grave avec des conséquences type hospitalisation et des traitements psychiatriques médicaux lourds. Donc, ils ont intégré aussi, ça c'est grâce aussi au travail que nous on fait, que les médias aussi font par rapport à notre travail, ils ont bien intégré le fait que chez le psychiatre, il y a le même type d'écoute avec éventuellement un soutien médicamenteux. Je tiens quand même à souligner que la plupart des psychiatres ne sont pas prescripteurs, hein, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Ça se fait souvent en relais avec d'autres confrères généralistes ou psychiatres, dans le cas d'une psychothérapie, sauf si évidemment ce sont des pathologies très très lourdes, et là vraiment on est obligé d'actionner sous le levier médicament. Donc pour moi, c'est pas quelque chose où les patients ressentent actuellement quelque chose de beaucoup plus contraignant que par le passé. C'est cette notion un peu de diabolisation de la maladie est sortie. On voit des patients qui ont des pathologies très très graves diagnostiquées vraiment avec des diagnostics très lourds, qui sont très bien dans la société, et ça fait aussi on peut faciliter la tâche des professionnels.
Concernant les psychothérapeutes, et pour clore cette partie, en tout cas sur le choix que vous pourriez faire entre un psychologue, un psychiatre ou un psychanalyste, Audrey Hakoun, pour les psychothérapeutes, certains auraient trouvé le moyen de contourner cette loi dont on parlait, la loi 2010, où il faut être inscrit obligatoirement au registre départemental. Il suffirait de dire, par exemple, qu'on est psy-praticien ou psychopraticien relationnel, hop là, et l'affaire est jetée, c'est-à-dire qu'on peut s'autoproclamer demain membre d'une profession, en fait, qui n'existe pas, psy-praticien ou psychopraticien relationnel.
Bien sûr que la loi Accoyer, il y a une loi qui réglemente, mais tout à l'heure, quand je disais que finalement n'importe qui peut s'installer, oui, en changeant un tout petit peu la dénomination, et je vais vous dire même, en utilisant psychothérapeute, il n'y a pas de contrôle. De toute façon, il y a une loi, mais elle n'est pas appliquée. Il n'y a pas de contrôle. Et en changeant un peu la dénomination, mais même on peut mettre praticien en relation d'aide, enfin on peut mettre tout ce qu'on veut finalement, et ça permet d'avoir pignon sur rue, d'exercer sans être inquiété. Mais je pense que le débat n'est même pas là. Enfin, ça, on en a parlé, donc il faut bien se renseigner, voilà, le bouche-à-oreille. Après, dans les psychothérapies, mais que ce soit si je vais voir un psychiatre, si je vais voir un psychologue ou un psychothérapeute, pas les psychanalystes, puisque un psychanalyste, on sait qu'il fait de la psychanalyse, qui est un courant, mais sinon, pour les autres, il y a différents courants de thérapie. En plus, différentes, pas de méthodes, mais des approches. Et un psychiatre peut être tout à fait d'orientation analytique, mais il peut être aussi thérapeute comportementaliste et cognitiviste et comportemental. Un psychologue peut faire de la gestalt-thérapie, ou alors je partage avec Nicolas une spécialité qu'on a en commun qui est l'hypnothérapie. Donc il y a plein de thérapies et d'approches différentes. Et c'est ça qui est intéressant. Une fois qu'on s'est assuré qu'on était chez quelqu'un ou qu'on allait voir quelqu'un de sérieux qui nous a été recommandé, c'est de voir aussi, de demander des informations sur sa manière de pratiquer et l'approche qu'il a, puisqu'il y a des approches qui vont convenir à certaines personnes et qui ne vont pas convenir à d'autres. Et là, des thérapies différentes, il y en a plein.
C'est pour ça que ça peut... C'est
pour
ça
le problème du choix.
Et oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est d'identifier notre problème précisément, et puis ensuite de tomber sur la bonne personne, parce que ça peut ne pas matcher à un moment donné. La connivence qu'il peut y avoir entre le praticien et bien sûr son patient, ça peut ne pas fonctionner. Ça peut donc mettre très longtemps avant de trouver quelqu'un qui nous corresponde.
L'intérêt, moi, c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui en tant que praticienne. Et avec moi, je suis dans des groupes, ce qu'on appelle des groupes de pairs, et on fait de l'analyse de pratique. C'est que je vois de plus en plus de, on va dire, de thérapeutes, que ce soit des psychiatres, des psychologues, des psychothérapeutes, qui sont multi-approches, qui ont plusieurs approches dans leur escarcelle, dans leur boîte à outils. Donc on a notre courant de base, je dirais, de formation, mais après, on est, et tous les gens que je rencontre, tous les professionnels que je rencontre, on est en perpétuelle formation, c'est-à-dire qu'on se forme tout le long de notre vie professionnelle, déjà, je pense, parce que ça nous attire et que ça nous plaît, et que c'est même nécessaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir proposer d'avoir différentes approches qui, comme le disait Nicolas tout à l'heure, vont nous permettre de nous adapter aux personnes qu'on a en face de nous et qui nous font confiance. Et ce qui va être bon pour l'un ne va pas être forcément bon pour l'autre. Donc on va pouvoir encore mieux s'adapter.
Docteur Dan Velea, est-ce que vous faites partie de ces psychiatres, moi vous savez comment je les appelle, les psychiatres je vous explique. Ce sont en fait ces psychiatres, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont ces psychiatres, lorsque vous allez les voir en consultation, ils sont en face de vous. Alors, il n'y a plus évidemment le côté canapé, visiblement, ça c'est un peu passé de mode, mais qui vont vous voir et qui, pendant toute la séance, font et terminent ensuite cette séance en disant voilà, pensez à ça, réfléchissez à ça, à la semaine prochaine. Est-ce que vous faites partie de ces psychiatres-là? Est-ce que c'est l'une de vos méthodes? Et sinon, laquelle autre avez-vous?
Écoutez, ben, ça peut m'arriver aussi d'avoir la même onomatopée, ou dire à la fin, réfléchissez à cette question. Mais je suis déjà quelqu'un qui, dans l'alliance thérapeutique que j'installe et que je veux installer avec un patient, il y a beaucoup d'échanges, donc il y a beaucoup de remises en question de ce que le patient dit, parfois même de ce que moi je peux affirmer, même si on dit souvent que le psychiatre ou le psychothérapeute doit rester dans une neutralité bienveillante et pas se positionner. Oui. Mais face à des patients qui sont dans des situations catastrophiques, qui sont en danger, qui demandent que de l'aide et du secours, on ne peut pas rester de marbre derrière notre différents courants thérapeutiques ou je ne sais pas quelle autre image, sans réagir et sans avoir une intentionnalité de soin qui fait que le patient a une utilité de cette démarche. Donc je discute avec, je suis en face à face, le canapé, oui j'ai un canapé qui est réservé aux patients, certains veulent s'allonger, certains restent assis, moi je suis dans un fauteuil, donc je peux aussi bouger derrière un bureau, ça dépend, c'est pas quelque chose de figé, l'espace thérapeutique, c'est ça que ça a cassé cette image un petit peu des films des années 50, où on avait cette image du psy, où vraiment ça faisait même peur pour ceux qui regardaient, ou ceux qui étaient en situation de consulter, c'est fini ce genre de choses, même maintenant les psychiatres, même ceux qui sont à la soixantaine, 70 ans, sont beaucoup plus modernes et ils ont changé d'approche. Il se peut que chez certains psychanalystes très orthodoxes freudiens, ça reste ce type de démarche parce que ça fait partie de leur travail. Et c'est expliquer aux patients qu'ils travaillent de cette manière-là. Et les patients, ils savent à quoi s'attendre. Ça dépend aussi après de ce que le patient recherche. Donc c'est pas non plus quelque chose figé et immuable. Tout peut évoluer en fonction du thérapeute, de sa manière. Il peut travailler sur un versant anti-stress avec EMDR ou avec, voilà, des moments de relaxation, l'envoyer chez un sophrologue, hypnothérapeute pour pouvoir que le patient puisse apprendre à se détendre, à avoir moins d'impulsions dans ce contrôle permanent. Non, ça dépend. C'est une palette énorme. Heureusement qu'il y a ce type de palette. Il faut connaître aussi les confrères en quoi ils excellent et pouvoir adresser certains patients de manière temporaire pour acquérir d'autres compétences.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes face à un patient, vous pouvez très bien lui dire « je vais vous conseiller quelqu'un d'autre parce qu'il sera plus adapté à la thérapie dont vous avez besoin ?»
Mais évidemment, parce qu'il y a certains patients qui sont vraiment... Je prends carrément l'exemple classique, les attaques de panique. On sait très bien que dans les attaques de panique, la sophrologie ou l'hypnothérapie, ou voire même le MDR, s'il y a une version post-traumatique derrière, peuvent aider ces patients à acquérir la manière de gérer les angoisses, de gérer le stress. On les a aussi, j'ai fait ces formations-là, mais je n'ai pas la prétention d'être dans ce type de thérapeutique. Je peux faire des bribes, mais ensuite je préfère adresser à quelqu'un qui fait régulièrement, qui a des protocoles, qui a un suivi et qui a vraiment des compétences et l'expérience beaucoup plus étoffée que la mienne. C'est l'honnêteté qu'il faut souligner chez les praticiens, justement ceux qui sont agréés, parce qu'évidemment ce terme de psychopraticien, même certains sont excellents, mais malheureusement ils n'ont pas pu acquérir un statut de psychothérapeute. Même là, il va falloir clarifier. Mais nous, on essaie de souligner qu'on essaie de faire le mieux pour nos patients. Si je me sens dépassé à un moment donné parce que la manière de travailler ou le contact ne marche pas, j'oriente ce patient vers quelqu'un d'autre avec toutes les recommandations et toute la bienveillance.
J'attendais votre phrase, parfait.
Le Mac de l'après-midi.
Le Mac de l'après-midi.
Sud Radio.
Mes invités pour parler de psy, évidemment. Les psys sont-ils les héros des temps modernes et sur la façon de choisir. Si vous n'avez pas tout entendu, il y a le podcast hein, sudradio.fr. Le docteur Dan Velea est avec nous. Audrey Acoun également, psychothérapeute. Et puis Nicolas Bichot, qui est psychologue à Toulouse et hypnothérapeute. Juste un petit mot de Michel Vino-Codeberg, qui est la vice-présidente de la FF2P, qui est la Fédération française de psychothérapie et de psychanalyse. Elle dit, oui, la perte de repères et de sens s'est intensifiée, même les traumas familiaux ont changé, il y a de nouvelles souffrances au travail, avec l'accélération des processus de communication et de changement, eh bien les patients n'ont plus le temps de reconstituer leurs ressources intérieures, c'est à une véritable fragmentation du psychisme qu'ont des liens sociaux nous assistons. Nous, praticiens, on doit tous avoir, selon notre méthode, essayer de tenter de reprendre cette phrase, ça sera mieux pour que vous puissiez comprendre. Tout praticien doit alors, selon sa méthode, tenter d'y répondre en travaillant comme un orfèvre. Ce ne sont plus seulement des fantasmes ou des manières de penser qu'il s'agit d'écouter, mais d'indéniables réalités. Ça veut dire que la société, évidemment, a changé, que les mots MAUX ont changé et qu'aujourd'hui, vous êtes obligés, vous, praticiens, d'adapter vos techniques et votre approche en fonction justement de ces mots qui ne sont plus des fantasmes, hein, qui sont aujourd'hui d'indéniables réalités. Audrey Acoun.
Oui, c'est vrai. Alors, je pense que avant, c'était, enfin, il y a toujours une part fantasmatique, mais avant, ça n'était pas que des fantasmes. La réalité, elle a toujours existé. C'est le principe. Hein, ça s'appelle le principe de réalité. Ouais. En revanche, aujourd'hui, tout est plus complexe du fait, on en a parlé tout à l'heure avec le docteur
Dan Velea,
j'avais retenu le prénom avec docteur Dan. C'est vrai qu'il y a une telle pression dans la société et une telle, voilà, on voit qu'au travail c'est difficile,
en obligation de résultat toujours,
les liens sociaux, hein, et une société, une organisation de la société qui devient très très toxique. C'est vrai que nous, c'est un travail, je dirais, au risque, parce qu'on doit essayer de tenir un petit peu tout et d'aider la personne dans différentes sphères. Je trouve que la défragmentation, c'est un bon terme employé, c'est-à-dire qu'on doit essayer d'aider la personne à rapatrier ses ressources pour en faire quelque chose, pour faire face à une réalité qui est dure. Ça, c'est pas un fantasme. C'est vrai que la réalité aujourd'hui est difficile et complexe. Donc on doit aider à refragmenter. Donc c'est du ciselage et du travail d'orfèvre, c'est vrai.
C'est exactement le même principe que ce fameux disque dur, hein, pour ceux qui connaissent bien. Il faut de temps en temps défragmenter pour remettre en position et puis faire en sorte que ce ne soit plus qu'une seule et même unité. Nicolas Bichot, alors vous, en tant que psychologue, vous avez ce même ressenti, le fait d'avoir pas évolué, mais en tout cas peut-être modifié votre approche des patients qui viennent vous voir?
J'aurais envie de dire que mon approche, de toute façon, je la modifie en fonction de chaque personne. Mais effectivement, au travers de ces situations individuelles, on touche à des symptômes bien plus sociétaux. Et effectivement, quand vous parlez de temps moderne, je trouve que l'image forte qui vient à l'esprit de beaucoup de personnes, c'est cette image un peu de l'individu broyé par la machine, comme dans le film Les Temps Modernes avec Charlie Chaplin. effectivement, on assiste aujourd'hui à cette logique qui n'est pas nouvelle, puisque justement, elle était déjà d'actualité au temps de Charlie Chaplin, mais qui maintenant, visiblement, s'intensifie et se radicalise. Où trois logiques se radicalisent finalement, celle de la technoscience, où on a tendance à réglementer tous les problèmes de la vie individuelle par des protocoles techniques. J'ai envie de dire, il y aurait aussi cette logique de marché, où la valeur de l'individu maintenant se négocie dans une relation de marché. Et aussi une troisième logique qui serait celle de l'individualisation à outrance, c'est-à-dire de l'individu comme principe organisateur de toute la société et de la démocratie en général. Et ben mine de rien, ces logiques qui sont poussées à l'extrême créent pas mal de souffrances. Effectivement, je suis d'accord avec tous mes collègues en disant que effectivement les gens n'ont pas forcément le temps de recoller les morceaux. Il y a une autre relation à l'espace et au temps et à l'autre aussi qui nécessite parfois un espace et un espace-temps particulier pour pouvoir recréer du sens. Et je pense que c'est tout le défi de la psychothérapie.
Absolument. Ouais. Docteur Dan Velea, juste dernière question en 30 secondes. Si une personne de mon entourage, parce que ça nous a été posé comme question, ne souhaite pas aller consulter alors qu'on sent bien que c'est une nécessité pour cette personne, que peut-on faire ?
Dans les cas évidemment très très durs, une maladie psychiatrique grave où vraiment la personne est en danger ou un danger pour les autres, il y a le recours à l'hôpital. En sachant qu'il ne faut pas voir l'hôpital comme le parent pauvre de la médecine et un recours de la dernière chance. C'est un travail très noble, ça nous a tous formés, on a tous été hospitaliers avant de pouvoir être thérapeute et libéral. Il faut rendre ce qui est à rendre, ils ont un travail très dur. Donc ce sont des situations limites où il ne faut pas traîner, il faut vraiment des fois obliger la personne. Si on peut arriver à convaincre cette personne, ne serait-ce de prendre contact avec une structure de soins ou avec un thérapeute pour pouvoir comprendre et pour pouvoir être guidé, c'est extraordinaire. Mais dans d'autres situations, des cas limites, là on est obligé d'agir même d'une manière aussi radicale.
Eh bien merci à vous tous et toutes. Merci infiniment au docteur Dan Velea, psychiatre, à Audrey Acoun également, psychothérapeute, et à Nicolas Bichot, qui est psychologue à Toulouse, je vous le disais, hypnothérapeute. Et je crois qu'Audrey aussi a dit qu'elle était hypnothérapeute. Hein. C'est une technique qu'elle maîtrise. Je le dis, c'est bien ça Audrey, hein, vous êtes hypnothérapeute. Voilà, c'est réglé. Merci infiniment à tous les trois. Merci de votre expertise, votre analyse.